Chapitre 27. Trois jours après avoir écrit à Mademoiselle de Puylaurens, la réponse de celle-ci n'était point arrivée, et comme leur concierge était un personnage qui ne daignait monter les lettres qu'une fois par jour, le matin, en faisant son escalier, Geneviève descendait à chaque instant voir si la poste n'avait rien apporté. Ce fut le lendemain seulement qu'arriva une lettre à l'adresse de M. de Mussidan. Mais elle était timbrée de Paris, non de corde. Geneviève la remit à son père, et quand celui-ci la déplia, elle vit qu'elle portait un en-tête imprimé « Étude de Maître Legenet de la Crochardière ». Maître Legenet de la Crochardière était le notaire de Mademoiselle de Puylaurens. C'était donc lui qui, bien certainement, avait été chargé de faire connaître la réponse de la tante de corde. Sa lettre lue, M. de Mussidan l'avait mise dans sa poche sans rien dire, et comme sa femme, pas plus que sa fille, n'osait jamais l'interroger, elles avaient dû attendre. Il parlerait sans doute. Mais après son déjeuner, il était sorti sans avoir rien dit. Elles étaient restées en proie à l'inquiétude, se demandant si, comme elles le pensaient, M. de Mussidan était bien réellement chez le notaire pour apprendre de celui-ci la réponse de Mademoiselle de Puylaurens. Ce fut l'opinion de Faré et, par conséquent, celle de Geneviève. Mais pour le notaire, Madame de Mussidan ne fut pas plus rassurée qu'elle ne l'avait été pour le silence de M. d'Arlanzon. Faré pouvait se tromper. M. de Mussidan ne rentra, comme tous les soirs, qu'à l'heure du dîner. Il paraissait de belle humeur et à son « Bonjour, fillette !» Geneviève se rassura. Il se mit à table gaiement, sans dire un mot de ce qu'il avait fait dans sa journée, mangeant, buvant bien, en homme qui est heureux de vivre et n'a pas d'autre souci. Et pendant ce temps, elle se regardait, tourmentée, se disant qu'il n'avait pas dû aller chez le notaire puisqu'il était si calme, ou bien qu'il ne s'agissait que d'une chose insignifiante. Mais le dîner fini, il dit un mot qui les rendit attentives. En quel état est la garde-robe de Geneviève ? « Elle est en bon état, ou à peu près, » dit Madame de Mussidan. « Pour ici, mais pour un voyage. » Elles osèrent le regarder franchement. « Voudrais-tu aller en voyage, fillette ?»« C'est selon. »« J'ai ta tante, à corde. » Elles eurent un élan de joie, quoique leur cœur se serra cependant. « Ta tante, » continua Monsieur de Mussidan, « désire que tu ailles passer quelque temps près d'elle. » Et comme je juge que cela est utile à tes intérêts, j'ai décidé que tu partirais après-demain. Ta tante t'envoie chercher par sa femme de chambre la vieille Adélaïde que tu iras prendre à l'hôtel du Bon La Fontaine. Madame de Mussidan leva la main comme pour demander la parole, mais son mari ne lui permit pas d'ouvrir les lèvres. Pas d'observation, dit-il, je n'en souffrirai point. Pas de prière. J'ai décidé que Geneviève devait aller chez sa tante, elle ira. Déjà une fois, j'ai cédé à vos caprices et cela a failli nous coûter cher puisque Mademoiselle de Puylaurens a voulu déshériter Geneviève. Mais aujourd'hui, je vous préviens que je serai inébranlable et que tout ce que vous diriez ne signifierait rien. » Sur ce, il leur lança un regard impérieux. Mais il eut tout lieu d'être satisfait de son énergie. Elles ne bronchèrent point et il n'eut pas à subir la scène de larmes et de prières qu'il redoutait. Il les avait soumises. « Ainsi, c'est entendu, après-demain soir, il faut être à 6 heures au Bon La Fontaine. Tenez-vous prête et d'ici là, travaillez à ce qui peut être utile à Geneviève. Je ne veux pas qu'elle arrive à corde en fille désordonnée. » Et il s'en alla à son café, enchanté de lui-même, se disant que les femmes sont toutes les mêmes. Avec elles, il n'y a qu'à parler haut. Restées seules, elles se regardèrent un moment. Puis, en même temps, elles sentirent que les larmes leur coulaient sur les joues. « J'attendais cette réponse, malheureuse de ne pas la voir arriver, » dit Madame de Mussidan. « Et voilà qu'elle arrive, » acheva Geneviève, « et nous sommes plus malheureuses encore. » Presque aussitôt, la sonnette retentit. C'était Faré qui, depuis une heure, se promenait sur la place, guettant le départ de Monsieur de Mussidan. « La réponse est arrivée. Je pars pour corde après-demain. » Ce fut une nouvelle désolation. Au lieu d'être à la joie de se voir à l'abri des poursuites de M. d'Arlanzon, il n'était qu'au chagrin de la séparation. « Mais quand reviendrez-vous » demanda Faré. Elle ne put que lui répéter ce que M. de Mussidan avait dit. Elle partait, elle n'en savait pas davantage. Mais le soir, en rentrant, et quand Geneviève fut couchée, M. de Mussidan donna à sa femme des détails qu'il avait réservés devant sa fille. « J'ai reçu ce matin une lettre du notaire le Genet de la Crochardière, me prévenant qu'il avait une communication importante à me faire. Il n'était pas difficile de deviner que c'était de la part de Mademoiselle de Puylaurens. Je ne m'étais pas trompé. Assez embarrassé, le notaire m'a présenté les excuses de cette vieille folle qui, se sentant près de mourir, a besoin de ne pas mourir seule comme elle le mériterait et de s'entourer des siens. Bien entendu, il ne m'a pas dit qu'elle était au plus bas, mais il faut bien qu'elle en ait conscience elle-même pour s'humilier ainsi. Mon premier mouvement a été de répondre qu'il ne pouvait y avoir rien de commun entre cette vieille coquine et moi. Mais j'ai réfléchi que, si légitime que fût ma rancune, je n'avais pas le droit de sacrifier les intérêts de ma fille à ma vengeance, et j'ai consenti à ce qu'il me demandait, c'est-à-dire que Geneviève alla passer quelque temps à Corde. Vous comprenez qu'il ne peut pas être question d'une bien longue séparation. C'est parce qu'elle se sait mourante qu'elle veut obtenir l'absolution de sa famille. Ne vous tourmentez donc pas de l'absence de votre fille, elle ne peut pas se prolonger. Dans tous les cas, j'espère que votre égoïsme maternel ne dira pas que la fortune de Mademoiselle de Puylaurens ne vaut pas quelques semaines, quelques mois peut-être d'absence. Mon égoïsme maternel ne dira rien si cette fortune préserve Geneviève de ce mariage dont il était question. Cela est une autre affaire. Il est évident que Geneviève, héritière de sa tante, n'est plus dans la même position que quand elle n'avait rien. Elle peut attendre, et je ne la forcerai certes pas à devenir tout de suite la femme du marquis. Si elle veut du temps pour le mieux connaître, elle en prendra autant qu'elle voudra. C'était la peur de la laisser dans la misère qui me faisait presser ce mariage, et cela seulement. Vous n'en avez jamais douté, j'espère. » Madame de Mussidan ne répondit pas, elle en avait trop à dire. Qu'importait d'ailleurs pour quelle raison le marquis n'était plus dangereux? L'essentiel était que ce mariage fût rompu, et il l'était. Il n'y avait pas à craindre que son mari, maintenant qu'il se voyait à la veille de jouir de la fortune de sa fille, consentît à un mariage qui lui enlèverait son usufruit. C'était 3 ans de tranquillité. Avant que Geneviève eût atteint sa 18e année, on ne lui parlerait plus mariage. Et elle eut un soupir de soulagement, presque un mouvement de triomphe. Elle avait donc réussi, elle était donc bonne à quelque chose, elle avait sauvé sa fille. Mais il ne la laissa pas à son triomphe. « Vous avez encore 2 jours à passer avec votre fille, dit-il, je compte que vous les emploierez utilement. C'est une enfant, et rien qu'une enfant, grâce à l'éducation que vous lui avez donnée. Elle ne se doute pas plus de ce qu'est la vie que si elle venait de naître. » Vous comprenez, n'est-ce pas, qu'elle a besoin d'être préparée au rôle qu'elle va avoir à remplir. Quel rôle? Comment quel rôle? Mais celui d'héritière, parbleu! Croyez-vous que c'est pour qu'elle ait gai les derniers moments de cette vieille coquine que je la laisse aller à Corde? Je ne sais si vraiment Mademoiselle de Puylaurens a fait son testament en faveur des sœurs de Saint-Joseph, comme on me l'avait dit. Mais si cela est, il faut que Geneviève s'assure que ce testament a été révoqué. Et il faut qu'elle veille aussi à ce que, dans celui qui sera fait en sa faveur, il n'y ait pas trop de legs particuliers qui la dépouilleraient. Madame de Mussidan n'avait pas l'habitude de résister à son mari, et devant toutes ses volontés, elle s'inclinait respectueusement. Pour elle, la maxime orientale « entendre et obéir » était article de foi. Cependant, un cri de révolte lui échappa. « Jamais ! » s'écria-t-elle. Puis, se reprenant aussitôt, « Jamais je ne pourrai, je n'entends rien à ces affaires de testament. » « Au fait, vous avez raison, il vaut mieux que je la prépare moi-même, vous ne feriez que des maladresses. À propos de maladresses, si Sébastien, Frédéric ou Clara viennent avant le départ de Geneviève, n'allez pas leur dire qu'elle va à Corde. Cela ne les regarde pas, au moins c'est inutile. »